VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La discussion entre le gouvernement ivoirien et les militaires des forces spéciales se poursuivait normalement aujourd'hui pour mettre fin à la mutinerie de ce corps d'élite qui a commencé mardi, a indiqué à l'AFP un responsable du ministère de la Défense. Les négociations avaient commencé mardi entre les mutins et les grands commandements de l'armée à la suite d'un mouvement de protestation des forces spéciales basées à Adiaké, à 90 km à l'est d'Abidjan, la capitale. Le calme était revenu ce matin dans la ville. Selon l'AFP, les commerces et les écoles ont rouvert. Les recherches se poursuivaient ce jeudi au Mali et au Burkina Faso pour retrouver une religieuse colombienne enlevée mardi dans le sud du Mali par des djihadistes présumés. Gloria Cecilia Agoti, une sœur franciscaine, a été enlevée mardi soir par des hommes armés présumés djihadistes. Elle était en service dans la paroisse de Karangasso, près de Koutiala. Kassine Traoré est en ligne de Bamako.
Depuis l'enlèvement de la sœur Gloria Cecilia Argoti, les éléments de la garde nationale et de la gendarmerie ont intensifié les recherches. C'est ce qui a permis l'arrestation de deux suspects dans la zone frontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Avec l'aide des populations, les militaires maliens ont pu retrouver les traces des motos qui ont transporté les assaillants avec l'otage. Grâce à des indications, les limiers ont établi les circonstances du rap. C'est ainsi que nous apprenons que la sœur Gloria Cecilia Argoti a été enlevée par un catcheur d'individus qui s'est introduit dans les chambres des religieuses avec des armes à feu et des coupe-coupe. Après s'être présentés comme des djihadistes, les quatre individus ont réclamé le coffre de l'argent et la clé de l'ambulance du centre de santé qu'ils utiliseront pour transporter la religieuse avant de finir leur route à moto. Le mercredi 8 février 2017, le véhicule a été retrouvé par une patrouille à un carrefour de la route nationale du côté de la frontière avec le Burkina Faso. Pour le moment, les recherches impliquent aussi des équipes de la gendarmerie, de la garde nationale et la population. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Dans le nord du Cameroun, les djihadistes de Boko Haram continuent les attaques suicides en représailles aux frappes de la force régionale. Il se passe rarement une semaine sans que le groupe ne fasse sauter des bombes. Pour protéger les communautés, le Cameroun renforce les capacités des groupes locaux d'autodéfense qui aident les militaires. Reportage Moki Edwin Kinzeka, récit Morgan Giriek.
À Mora, près de la frontière nigériane, les 200 recrues du groupe d'autodéfense sont accueillis en musique. Midjiyawa Bakari, gouverneur de la région du Grand Nord, a fait le déplacement.
Sur très haute instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui nous a demandé de descendre sur le terrain, transmettre ses félicitations et ses encouragements à vous, membres des comités de vigilance, ainsi qu'aux chefs traditionnels ici présents, pour votre courage et votre détermination dans la lutte contre l'insécurité dans le département de Mayo-Tchanaga.
Le gouverneur a équipé la milice d'autodéfense de Mora de motos, de bicyclettes, détecteurs de métaux. Il leur a aussi fourni de l'argent. Tel et Paul dirige le groupe.
Ils sont presque déjà finis et on est prêt à les finir encore. Déterminés à barrer la rue.
Il n'empêche, beaucoup se demandent jusqu'où pourra-t-on compter sur les milices. L'an dernier, des membres de groupes d'autodéfense soupçonnés d'être infiltrés ont été arrêtés. Pour les autorités, ces groupes d'autodéfense font un travail indispensable qui sauve des vies. Ils connaissent le terrain et partagent des renseignements avec les militaires. Ce soir, un vent fort souffle sur le village. 80 vigiles armés de machettes, d'arcs, de flèches, de couteaux et de lances sont réunis pour prendre la relève. L'armée protège la frontière et le groupe d'autodéfense s'assure qu'aucun étranger n'entre dans le village. D'après Kadil Ousmanou, les miliciens sont dotés de téléphones cellulaires pour prévenir les militaires dès qu'ils voient des suspects.
On ne travaille pas pour quelque chose, on travaille pour notre bien de village.
Joseph Manaouda, chef du village de Mora, estime que grâce aux vigiles, la population peut dormir la nuit.
Les comités de vigilance ont rattrapé plusieurs kamikazes dans la zone de Mayo-Moscota, par exemple, à Mozogo. Ils ont attrapé ceux qui voulaient entrer et pour les mettre à la disposition des forces de maintien de l'ordre. Du côté montagne, ils les ont bloqués effectivement avec des flèches, des moyens rudimentaires, mais ils ont pu maîtriser beaucoup d'adeptes de Boko Haram.
Des dizaines de miliciens ont été tués dans le nord du Cameroun. Sali Ali Mahamat a échappé de justesse à la mort. Âgé de 44 ans, il avait été affecté aux îles du lac Tchad avec ses deux frères.
Ils nous ont pris pour otage et ils nous ont demandé de les conduire dans leur planque. On s'est concerté pour faire face à ces gens. Les Boko Haram, ils étaient armés avec deux fusils, les cadets parmi nous. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on attend pour les attaquer. Et on leur a dit que non, il faut qu'on les suive doucement, stratégiquement pour les faire face. Et là, comme ça, quand on s'est retrouvé dans la pirogue, faisant semblant de les accompagner dans leur planque, j'ai bondi sur le premier qui avait l'arme à main. J'ai plongé avec lui dans l'eau et je l'ai ligoté. Il était fatigué, on pensait qu'il était mort. Et le deuxième qui a tiré sur mon frère, lui, étant encore en force, voulait encore se défendre plus. Et le blessé a commencé à dire qu'il faut avancer, sinon il risque de nous faire mal. Et c'est ainsi que nous sommes venus au secours de l'autre et on a pu maîtriser ces gens et on a pris les armes. Et on a appelé le capitaine qui est venu avec, disons, le force de l'ordre pour les récupérer au bord du lac.
D'après Sali, ses deux frères ont attaqué le terroriste et l'armée est venue à la rescousse. Il s'en est tiré avec une balle dans la main droite et a été soigné gratuitement dans un hôpital public.
Voilà, merci Morgan. La Haute Cour du Kenya a déclaré aujourd'hui nulle et non avenue la décision du gouvernement de fermer le camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, et de renvoyer dans leur pays les réfugiés somaliens. Nairobi, qui peut faire appel de cette décision, avait pris de court les réfugiés, les agences humanitaires, l'ONU et les partenaires occidentaux du Kenya. En annonçant le 6 mai 2016 la décision de fermer Dadaab, le Kenya avait initialement annoncé vouloir fermer le camp fin novembre 2016, mais avait repoussé cette fermeture au 21 mai 2017 à la suite d'une requête du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR. Le président sud-africain Jacob Zuma va prononcer ce soir son discours annuel à la nation devant le Parlement au Cap, où plus de 400 soldats ont été appelés en renfort pour assurer la sécurité. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, s'est immédiatement offusqué de cette décision, évoquant une violation de la Constitution. Jacob Zuma doit rester chef de l'État jusqu'en 2019, mais quittera son poste de président de l'ANC à la fin de l'année, ouvrant ainsi la porte de succession au sein du parti.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le gouvernement britannique a exhorté aujourd'hui les lords à approuver le projet de loi sur le déclenchement du Brexit après son adoption par les députés en première lecture mercredi, intitulé « Projet de loi de l'Union européenne ». Le texte donne à Theresa May, la première ministre, le pouvoir d'activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui lancera 2 années de négociations de sortie de l'Union européenne. L'adoption du texte par les lords pourrait intervenir dès le 7 mars et devrait permettre à Theresa May de déclencher l'article 50 du traité de Lisbonne avant le 31 mars comme elle s'y était engagée. Ici aux États-Unis, le cerveau autoproclamé des attentats du 11 septembre 2001, Khaled Sheikh Mohamed, affirme dans une lettre à l'ex-président Barack Obama que ces attaques qui ont fait près de 3000 morts étaient le résultat de la politique étrangère des États-Unis qui a tué de nombreux innocents. Sheikh Mohamed a commencé à écrire en 2014 cette lettre de 18 pages adressée à la tête du serpent. Barack Obama, dirigeant de la nation de l'oppression et de la tyrannie, a indiqué à l'AFP l'avocat de la défense, David Nevin, qui en a fourni une copie. Mais la lettre datée du 8 janvier 2015 n'est parvenue à la Maison-Blanche que 2 ans plus tard, lors des derniers jours de la présidence de Barack Obama, selon les médias, après qu'un juge militaire eut ordonné à la prison de Guantanamo, où est détenu Sheikh Mohamed, de la livrer. Et puis pour terminer, des rebelles ont tiré des roquettes sur un centre de distribution du croissant rouge en Syrie, à Alep notamment, tuant 3 personnes, dont un enfant et un volontaire, a rapporté aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. La mort du volontaire dans cette île survenue mercredi dans le quartier de Hamdaniye a été confirmée par le Croissant Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge. 7 volontaires et employés ont été également blessés, dont 3 grièvement selon les 2 organisations. Jean-Roger Billon, point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.